Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Comment les pays du G5 Sahel vont-ils pouvoir se réorganiser pour faire face aux groupes djihadistes après l'annonce de la fin de l'opération Barkhane par le président Macron ? Nous en débattrons ce soir, mais avant, voici votre invité décryptage.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Gordier Bedoumbra, bonjour.
Bonjour.
Ancien secrétaire général de la présidence et ex-ministre des Finances du défunt président Déby au Tchad, vous faites partie de la vingtaine de personnalités tchadiennes à avoir signé ce que vous avez nommé appel du 1er juin 2021 pour une sincère conférence nationale inclusive et souveraine qui sauve le Tchad. Cet appel traduit-il le doute des signataires quant à la volonté des autorités militaires au pouvoir à organiser un dialogue franc et inclusif?
Cet appel s'adresse à tous les acteurs tchadiens, bien sûr, mais en commençant par les autorités tchadiennes actuelles, bien sûr, parce que nous pensons que c'est elles qui sont au pouvoir. Elles ont la responsabilité première de faciliter le dialogue. Elles-mêmes sont d'accord pour organiser un dialogue inclusif, mais nous voulons être sûrs que ce dialogue est effectivement inclusif, c'est-à-dire que toutes les forces vives tchadiennes y sont conviées. Et quand nous disons forces vives tchadiennes, c'est tous les partis politiques, tous les mouvements de la société civile qui ne partagent pas nécessairement le point de vue du comité militaire de transition, les organisations politico-militaires. L'autre aspect important, c'est qu'il ne s'agit pas juste de se retrouver, de bavarder, de partir. Ça ne va pas régler le problème. Donc, si on se réunit, c'est pour faire quoi? Il faut qu'on se réunisse pour prendre des décisions qui soient utiles au Tchad et qui permettent au Tchad d'aller de l'avant et qui permettent de gérer une transition où on va aboutir cette fois-ci réellement à des solutions qui soient satisfaisantes pour l'ensemble des Tchadiens.
Quand vous parlez de dialogue inclusif, cela signifie que les rebelles du FACT devraient être invités à cette discussion?
Ben, tous les rebelles, nous n'excluons personne. Je pense que eux-mêmes avaient déclaré qu'ils étaient d'accord pour le dialogue. Donc nous pensons que tous ceux qui prennent les armes, c'est l'occasion de leur dire « venez, discutons de l'avenir de ce pays. Si vous avez des ambitions pour ce pays, ben, c'est l'occasion qui vous est donnée pour que vous exprimez de façon libre, transparente, dans la paix, et que les Tchadiens feront le choix de ceux qui auront fait les meilleures propositions pour développer le pays.
Le Conseil militaire de transition a été jusque-là très clair et ne souhaite pas associer le FACT à ce dialogue.
Ben, vous savez, quelqu'un comme le président Gukuni Wode, qui a été au pouvoir, qui a été aussi dans la rébellion, qui est extrêmement respecté dans ce pays, a appelé à accepter ce dialogue-là. Donc nous ne sommes pas seuls. C'est que s'il n'y avait pas de divergence, nous n'allons pas lancer l'appel. Si nous lançons l'appel, c'est justement parce que pour le moment, tout le monde n'est pas encore sur la même longueur d'onde.
Votre appel à un dialogue inclusif va dans le même sens que ce que demande la coalition Wakitama, composée d'une partie de l'opposition et de la société civile. Pourquoi n'avoir pas tout simplement rejoint ce regroupement?
Ben, si nous rejoignons ce regroupement, notre appel n'aurait pas beaucoup de sens. Nous avons pris notre initiative en dehors de ce groupe, en dehors de ce regroupement. S'il y a une coïncidence ou une concordance, tant mieux. Parce que justement, notre appel s'adresse aussi à ce groupe, à ceux qui ont les armes, à ceux qui sont au pouvoir. Et donc, notre position est une position non partisane visant justement à rassembler tout ce monde, et nous espérons que beaucoup d'autres vont rejoindre notre appel pour cette conférence que nous appelons de tous nos voeux.
À propos de ce dialogue, dans votre appel, vous demandez aussi la nomination d'un facilitateur international crédible. Est-ce que cela signifie que pour vous, il n'y a aucune personnalité tchadienne suffisamment consensuelle pour conduire ces discussions?
Pas du tout, il y a des Tchadiens capables, il y a des Tchadiens consensuels, mais dans l'environnement actuel, pour éviter tout préjugé, tout blocage, nous pensons que quelqu'un qui n'est pas perçu d'une manière ou d'une autre dans le jeu tchadien, dans l'immédiat, dans cette phase actuelle, pourrait être utile.
Ailleurs, les religieux ont été appelés en renfort par la classe politique. Et pourquoi pas au Tchad?
Il n'est pas dit que c'est exclu, mais nous pensons que dans le contexte tchadien, quelqu'un qui est hors du contexte peut être plus facilement être entendu par tout le monde. La transition doit permettre d'aboutir à des élections saines. Et il est important que les gens qui gèrent la transition ne soient pas en même temps ceux qui préparent le terrain pour eux-mêmes. Donc c'est tout à fait logique et normal que ceux qui jouent un rôle important dans cette transition ne puissent pas être candidats aux élections parce que cela va nécessairement fausser le jeu de la transition.
À l'issue d'un congrès controversé tenu ce week-end, convoqué par la secrétaire générale adjointe et annulé par le secrétaire général en déplacement en France, le MPS au pouvoir a désigné par acclamation un nouveau secrétaire général. Il s'agit de Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale, qui avait refusé de succéder au président, au dauphin président Idriss Déby, comme le prévoyait la Constitution. Certains parient sur l'implosion du parti fondé par Idriss Déby. Vous le craignez, vous aussi?
Il revient aux gens de MPS de résoudre les problèmes qui les concernent. Eux, en tout cas, ils ont dit qu'il n'y aura pas d'implosion, qu'ils sont restés unis.
Vous n'êtes pas membre du MPS, M. Bedoumbra?
Non, je ne suis pas membre du MPS.
Cordier Bedoumbra, merci beaucoup.
Merci.
Ancien secrétaire général de la présidence et ex-ministre des Finances du Tchad.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Avec nos invités que nous allons retrouver dans quelques instants, nous allons débattre de la décision annoncée par le président français Emmanuel Macron la semaine dernière de la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. Et nous en parlons ce soir avec Dr Ali Tounkara, qui est directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Monsieur Tounkara, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes également auteur de l'ouvrage Mali, analyse socio-historique des conflits nord et centre. Et en ligne de Paris, Mamadou Ismaïla Konaté, qui est avocat et ancien ministre de la Justice du Mali. Maître Konaté, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous vos auditeurs.
Merci beaucoup. Merci également à vous, Emmanuel Dupuis, d'être avec nous dans cette émission. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, IFSE. Bonsoir, monsieur Dupuis.
Bonsoir Liliane, bonsoir aux auditeurs.
Merci, bienvenue à tous. Je vais commencer avec vous, monsieur Tounkara. Que dit-on à Bamako de l'annonce faite par Emmanuel Macron la semaine dernière sur la fin de l'opération Barkhane?
Alors, c'est vrai que les Maliens sont divisés à la suite de cette annonce, mais l'impression qui est finalement donnée, c'est plutôt la surprise. Même s'il faut quand même aussi le rappeler, de plus en plus de voix appellent ouvertement un tel départ de la force Barkhane française. Mais la démarche entreprise par le président Macron pour annoncer la modification qu'il entend apporter au niveau de cette force qui remplit quand même une fonction vitale dans le cadre de la lutte contre le couvert du coup violent. Cette démarche elle est non seulement exclusive, mais dans le même temps, elle est perçue par un nombre important des Maliens, même des Sahéliens, comme méprisante vis-à-vis surtout des chefs d'État.
Voilà, ça c'est pour ce qui est des populations. Mais on s'interroge aussi, Maître Konaté, sur l'attitude de la classe politique. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup entendu des commentaires de la part de cette classe politique et aussi de l'armée malienne.
Oui, tout à fait. La classe politique et les autorités militaires n'ont pas réagi et cela se comprend fortement. Parce que simplement, ils sont d'abord dépités et ils n'ont pas toujours le moyen de répondre sur le même tempo que le président de la République française. Il faut quand même noter que Barkhane et tout le stationnement militaire français aujourd'hui sur le territoire du Mali, mais au-delà sur le territoire du Sahel, découle d'un engagement entre les États. Et de la manière dont a procédé le chef de l'État français, cela peut être considéré comme une rupture et une rupture grave dans dans le cadre de la coopération militaire et une rupture unilatérale.
Pour que ce soit très clair, Maître Konaté, quand vous dites la manière dont le président français a procédé, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire que les autorités maliennes n'ont pas été associées, comme le soutiennent certains à Bamako?
Du tout, comme à son habitude. C'est encore à l'occasion d'une prise de parole publique qu'il a fait cette annonce tellement importante qu'il oublie qu'il s'agit d'engagements d'État et que les engagements d'État ont besoin, pour être rompus, de discussions préalables d'une part et d'échanges de vues d'autre part. Ce d'autant plus que de Pau, où les chefs d'État du Sahel se sont réunis autour du président de la République française, en Djamena, où il a affirmé la présence des forces Barkhane, on est plutôt étonné de voir qu'il a pris une décision aussi importante tout seul, de façon unilatérale et à l'improviste.
D'autant plus que le sommet de Pau, Monsieur Dupuis, peut-être avant de venir sur ce qui s'était passé au sommet du Pau, qui pourrait peut-être justifier la surprise des autorités maliennes dont parle Maître Konaté, vous, est-ce que vous comprenez l'étonnement des précédents intervenants?
Alors oui et non. Alors peut-être pour rappeler quelques éléments qui n'ont pas été évoqués. La rupture des programmes militaires n'est pas venue avec l'annonce de la fin de Barkhane. Cela avait précédé de 2 semaines. Quand le président Emmanuel Macron a annoncé la fin programmée de Barkhane, je précise, à l'horizon 2023, non pas aujourd'hui, à l'horizon 2023, il n'a pas fait état d'une décision qu'il avait prise précédemment, et c'est ce dont nous parlons. Et non pas la fin de Barkhane, mais la fin de la programmation et des opérations militaires, ça s'appelle les PMO, programmation militaire opérationnelle. Cette décision avait déjà été prise il y a 2 semaines, à la suite de la démission forcée du président Bando et du Premier ministre Mokhtar Ouane.
Je pense que c'est sensible. C'est une semaine à peu près d'écart entre la décision suspension de la coopération militaire et celle de la fin de Barkhane, fin annoncée de Barkhane.
Pour être précis, donc, le président, la fin de Barkhane ne signifie pas la fin des opérations militaires. Ces opérations
militaires nous sommes bien d'accord, M. Dupuis. Nous en sommes déjà à la forme que dénonçait Dr. Tunkara et Maître Konaté sur le fait que la France accuse M. Macron d'avoir procédé, selon eux, de façon, disons, cavalière, sans associer ses partenaires maliens.
C'est pas vrai. C'est pas vrai, premièrement, pourquoi? Parce que les militaires français avaient déjà annoncé quelques jours avant que l'opération Barkhane allait évoluer. Donc ça, c'est pas vrai de dire que le président Macron a pris tout le monde de court. Il y avait eu des discussions préalables entre les autorités militaires maliennes, les autorités militaires françaises, notamment le dispositif militaire français dans le cadre du G5 Sahel. Deuxième élément, le sommet de Pau en janvier dernier, le sommet de Nouakchott en juin dernier, le sommet de N'Djamena en février dernier, ont toutes dit que l'opération militaire française allait évoluer, non pas vers un désengagement, mais vers une évolution, vers une forme plus agile, plus souple, en tout cas un changement de nature de l'opération. Ne nous trompons pas, il ne s'agit pas de la fin de Barkhane, mais une évolution du dispositif militaire. Là où il y a effectivement une incompréhension, c'est que la fin de ce dispositif militaire arrive pour certains beaucoup trop vite, alors que tous sont d'accord sur l'idée que les militaires français ne peuvent pas rester éternellement dans la...
Juste préciser, Monsieur Dupuis, oui, les Français ne vont pas rester éternellement. Les chefs d'État du G5 Sahel le savaient. Je pense que c'était très clair ce point. Mais pourquoi avoir décidé au sommet de Pau en janvier 2020 de renforcer les forces Barkhane si un an après, il fallait annoncer la fin de cette opération? Est-ce que c'est logique?
Ben oui, c'est logique d'une certaine manière, puisque entre janvier et aujourd'hui, se sont passés 2 événements. C'est passé un coup d'État le 18 août dernier au Mali, qui a un peu perturbé l'ordonnancement des choses, avec des sanctions de la CEDEAO, de la communauté internationale, de l'Union africaine, avec un deuxième volet de ce coup d'État le 24 mai dernier, avec là aussi une volonté claire de la part de la France, de rappeler le caractère civil de la transition, d'où le gel d'un certain nombre d'opérations qu'elle avait dû...
Dans la fin de l'opération, d'après vous, est consécutive au coup d'État, ce n'est pas une décision réfléchie?
Alors c'est une des conséquences du coup d'État, bien sûr. Je le dis autrement, s'il n'y avait pas eu le coup d'État, je suis certain que l'opération Barkhane aurait duré un petit peu plus longtemps.
Merci. Monsieur Tonkara, une réaction ?
Oui.
Oui, à ce que vient de dire Monsieur Dupuis, finalement, qui estime que la décision du président Macron a été précipitée par les coups d'État et qu'il ne s'agit pas d'une décision longuement et mûrement réfléchie.
Je pense que du point d'analytique, il n'est pas aisé de soutenir un tel argumentaire de la part de M. Dupuis. Quand on regarde ce qui se passe dans le Sahel, on reconnaît effectivement le rôle important que joue la France à travers la force Barkhane. Mais évidemment, une telle annonce soulève un certain nombre d'aspects. Parmi ceux-ci, il faut quand même évoquer le coût de cette intervention française dans le Sahel. Naturellement, le président Macron chercherait à internationaliser le financement de cette force antiterroriste. Mais dans le même temps, il ne faut quand même pas prendre nos auditeurs pour des idiots. L'élection présidentielle française se pointe. Donc, naturellement, le président Macron, il va être clairement taclé sur ces questions des forces étrangères, des forces françaises hors de frontières. Mais dans le même temps, ce changement du paradigme, on sait quand même qu'aujourd'hui, la force Takuba, elle peine à avoir un ancrage. Beaucoup d'États européens avaient effectivement promis à la France de se battre à ses côtés dans les Sahel contre les gouvernements violents, mais lesquels États, malheureusement, peinent à honorer les engagements. Donc tout cela expliquerait le pourquoi d'une telle modification ou en tout cas ramification de la présence française dans les Sahel. Mais surtout, moi je pense que l'élément le plus important dans cette annonce, c'est plutôt quel rôle le président Macron a-t-il accordé au chef d'État concerné quand même par le changement du paradigme. D'ailleurs, dans sa prise de parole, il s'est plutôt adressé au chef d'État américains, britanniques, allemands qui sont avec la France dans ce combat, dans aucun moment il a quand même mis l'accent sur l'importance d'impliquer effectivement réellement les pays du Sahel dans une telle définition de la présence de la force Barkhane française. Je pense que en toute objectivité, sans succomber au charme des politiques sensationnelles, il est quand même évident que derrière une telle annonce, le président Macron a clairement affiché un mépris vis-à-vis des États sahéliens.
Merci, Dr. Tonkara. Et pour ne pas avoir vous interrompre, M. Konaté, vous prendrez la parole juste après cette courte pause.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quelle réponse face au djihadisme dans le Sahel après la fin annoncée par le président Macron de l'opération Barkhane ? Nous en débattons ce soir avec Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE, ici à Paris, et maître Dr. Ali Tonkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, et également maître Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre malien de la Justice. Maître Konaté, comment réagissez-vous aux arguments apportés par M. Dupuis qui affirme qu'en réalité, on ne devrait pas, côté malien, être surpris par l'annonce de M. Macron au regard du double coup d'État en l'espace d'un an enregistré dans le pays?
Oui, enfin, si ce n'est de rappeler que les relations d'État ne sont pas des relations de jeu d'enfant, je veux bien accorder toute l'importance à ce qui est arrivé au Mali, qui est extrêmement grave, mais qui ne peut pas aujourd'hui, du jour au lendemain, donner l'occasion à un partenaire aussi important en termes de défense et de sécurité du territoire malien, du territoire du Sahel aujourd'hui, sur un coup de tête comme ça, prendre des décisions qui sont sans aucun lien avec ce qui avait été dit auparavant. Monsieur Dupuis lui-même a rappelé qu'à Pau, à Nouakchott et aussi à N'Djamena, le chef de l'État français a fait des affirmations qui tendaient plutôt à aller vers le renforcement des effectifs d'une part et une certaine présence au titre de Barkhane. Que Barkhane ait pu évoluer, je veux bien croire, mais Barkhane ne peut pas aujourd'hui se mettre dans une position où on alerte du jour au lendemain. Ça y est, je m'en vais. La question de la défense et de la sécurité concerne aujourd'hui le terrorisme. Et le terrorisme n'est du Sahel, c'est un phénomène mondial aujourd'hui. Alors cela dénote de toute l'étendue de la responsabilité qu'a le chef d'État de la France aujourd'hui de pouvoir retirer les forces de Barkhane sur un coup de tête, parce qu'en définitive, c'est vrai que le coup d'État est un acte excessivement grave, mais c'est un acte qui a été perpétré ailleurs. Il vient de N'Djamena, il a vu un coup d'État là-bas. Au nom de la sécurité, il a décidé de se maintenir là-bas au titre de la coopération militaire sans jamais enlever un seul effectif là-bas. Par contre, au Mali, parce que simplement, ça ne s'est pas fait comme lui l'entendait.
Allô, Maître Konaté ? Allô, Maître Konaté ? Nous l'avons perdu et c'est incompréhensible puisque Maître Konaté est de passage à Paris avec nous dans cette émission. Le temps de le retrouver, on vous laisse le temps de réagir, Monsieur Dupuis. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Voilà, il faisait observer la position de la France que Emmanuel Macron a eue pour le coup d'État au Tchad. Suite à cela, je vous posais cette question. Est-ce que le fait de sanctionner ainsi le coup d'État au Mali en précipitant la décision du retrait ou de la fin de Barkhane ne pourrait pas s'apparenter à une ingérence de la France dans les affaires maliennes?
Mais non, d'ailleurs, je prends ce qu'a dit votre invité juste avant. L'évolution de Barkhane ne concerne pas que le Mali. Il concerne l'ensemble des pays qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme. On focalise beaucoup sur le Mali.
Oui, vous aussi, au début de vos propos, vous avez clairement parlé du Mali, que c'était pour sanctionner le coup d'État au Mali, que cela a précipité la décision de M. Macron.
C'est bien précisément là où je veux en venir. Je ne suis pas du tout certain que les forces françaises, en quittant le Mali, quittent la totalité des pays du Sahel. On l'évoque de plus en plus, un renforcement des opérations de lutte antiterroriste par le Burkina Faso, où la Task Force Sabre est sans doute sous-dimensionnée pour faire face à la dramatique situation au Burkina Faso, seulement 350 hommes. Je ne crois pas du tout, par contre, que les 1200 Français au Tchad quittent le Tchad. D'ailleurs, il faut avoir à l'esprit que l'opération Barkhane n'est pas une opération créée de toutes pièces, c'est la superposition de missions créées avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? On va revenir aux opérations hantées, c'est-à-dire que le dispositif épervier qui fait que 1200 Français sont stationnés au Tchad depuis 1986 va rester tel quel. Que
l'opération Tchad... Nous allons parler dans un instant, hein, dans quelques minutes seulement, de la réorganisation qui pourrait intervenir. Mais la question était de savoir, est-ce que la France qui a soutenu le Tchad, qui a porté à bout de bras le fils du président Déby au Tchad, est-elle bien placée aujourd'hui pour sanctionner le Mali suite au coup d'État? C'était ça la question de M. Konaté.
Oui, mais sauf que M. Konaté a oublié que la CEDEAO a sanctionné le Mali, que l'Union africaine a sanctionné le Mali.
Ils ont suspendu le Mali. Ces deux organisations ont suspendu le Mali, mais n'ont pas remis en cause le fait que le président de la transition, le putschiste Goïta, ait pris le pouvoir. Le Mali a été suspendu et pas sanctionné.
Oui, mais je ne suis pas certain que l'on parle de la même chose. Le départ de Barkhane n'est pas une sanction. Comme je le disais, c'est une évolution du dispositif. Il y aura sans doute un financement supérieur à ce qui était celui, et là je m'inscris un peu en faux, sur l'opération Barkhane. De vous à moi, le départ de Barkhane va coûter beaucoup plus cher que le maintien de Barkhane, pour une raison simple. C'est que, premièrement, il va falloir trouver quelqu'un pour remplacer les forces françaises. Et là, de ce point de vue-là, il est possible qu'il y ait une très forte concurrence pour essayer d'adapter le dispositif. Deuxième élément, si l'objectif de Barkhane, un des objectifs de Barkhane, était la formation des militaires maliens, eh ben, il faudra renforcer encore plus et accélérer la formation des militaires maliens. Les militaires maliens, 13 000 ont été formés depuis le début de la présence internationale. Et puis, comme je viens de l'indiquer, le départ de Barkhane ne signifie pas que la soixantaine de nations qui constituent la force militaire de la MINUSMA vont disparaître, et encore moins EUTM. Il ne vous aura pas échappé que le président de la République, en évoquant la transformation de Barkhane, a dit qu'il y aura un acte d'effort supplémentaire sur Takuba. Après, on peut débattre sur l'efficacité ou la réalité de cette affirmation, et la mission EUTM. Donc, je ne crois pas du tout que l'on parle de la même chose.
Merci, Monsieur Dupuis. Maître Konaté, vous avez perdu tout à l'heure, mais est-ce que vous, finalement, Est-ce une mauvaise chose d'arriver à cette transformation, à cette redynamisation de la force Barkhane dans le Sahel?
Il n'y a aucune transformation, il n'y a aucune dynamisation. Il y a simplement un geste de gouvernement qui a été fait en tenant compte aujourd'hui de la politique intérieure française. Et ça, les autorités maliennes et les autorités des pays du Sahel doivent être capables de comprendre cela et de tirer toutes les leçons à ce niveau-là. Je ne comprends pas du tout l'argumentaire qui a été avancé ici par M. Dupuis en disant qu'il va y avoir plus d'engagement que d'autres. Takuba n'a jamais mobilisé personne. Et Takuba, ça fait près d'un an qu'on en parle, ça n'a jamais mobilisé personne. Alors, vous induisez aujourd'hui les autorités françaises, vous prenez le fait que ces autorités françaises doivent pouvoir se retirer aujourd'hui dans le cadre de Barkhane, qui visiblement est sur le terrain depuis quelques temps, connaît le terrain mieux que tout le monde, s'est investi et a des résultats probants avec les forces de défense et sécurité localement. Je veux bien qu'on apparaisse ici en pur français et même en représentant du Quai d'Orsay, mais il faut être capable aujourd'hui de pouvoir appréhender les choses, mais très objectif de pouvoir les analyser. Moi, je ne vois pas les choses du côté que du Mali. Je vois les choses du point de vue de l'engagement de plusieurs États avec la France aujourd'hui.
Mais excusez-moi, maître Konaté, vous êtes en train de dire que Barkhane a fait des résultats probants avec l'appui en collaboration avec les FAMA, les forces armées maliennes. Mais en même temps, on a entendu beaucoup d'acteurs maliens dire que l'opération Barkhane n'a servi à rien. D'autres experts dire que le retrait de la force française même est la preuve que la stratégie française a échoué, et même des voix se levaient pour demander le départ des forces françaises de Barkhane.
Mais dans tous les pays, vous avez ces dissonances-là. Vous venez en France, vous avez toutes les voix qui se font entendre aujourd'hui par rapport à la présence française à l'extérieur du territoire français. Il y a 51% d'un sondage récent qui indique aujourd'hui que les Français sont pour le rapatriement des forces de défense et sécurité. Mais une chose est pour les gens d'apprécier, une autre chose est pour ceux qui sont quand même en situation de pouvoir de bénéficier d'un certain nombre de données que les populations civiles, les populations de tous les jours n'ont pas. Cette appréciation aujourd'hui doit tenir compte du fait qu'aujourd'hui, le terrorisme est une menace grave dans nos pays. Deuxièmement, que la situation actuelle de nos armées est faible. Et troisièmement, que le retrait immédiat, rien que dans le cadre de la communication, est de nature aujourd'hui à complètement décourager psychologiquement les gens qui sont sur place et à apeurer les populations.
Merci.
C'est sur ce point-là que je veux que M. Dupuis regarde par là pour essayer de comprendre. On n'est pas dans une cour de récréation, ce n'est pas un jeu d'enfant,
c'est une
relation d'État à État qui porte sur des affaires militaires.
Docteur Ali Tunkara, oui, M. Konaté dit c'est un départ précipité, c'est peut-être trop tôt. Mais de toute façon, il fallait qu'un jour ou l'autre, Barkhane s'en aille et puis que les forces maliennes ou les forces des pays sahéliens prennent la relève et sécurisent leur territoire.
Incontestablement, mais je pense qu'il faut quand même rappeler que la force Barkhane, elle reste utile pour les pays du Sahel, en particulier pour le Mali. Mais qu'à cela ne tienne, au-delà de cette utilité, incontestablement, je pense que les demandes qui sont satisfaites par le président Macron ne sont pas forcément celles exprimées par les armées sahéliennes et maliennes en particulier. En fait, si vous regardez effectivement les Cap Sahel, item, toutes ces instances européennes qui assurent des formations à l'endroit des forces sahéliennes, elles sont utiles, ces instances. Sauf que et si vous échangez un peu avec les militaires sahéliens, ils vous diront que les différents apports qui leur sont apportés ne sont pas forcément ceux dont ces militaires ont forcément besoin. Ils veulent la sécurité, par exemple, la France les dote de moins de flotte. On n'a jamais entendu le président Macron dire qu'il veut mettre à disposition un certain nombre d'avions permettant aux militaires sahéliens de se mouvoir. De la même manière également, on n'a jamais entendu de la part du président Macron. Effectivement.
Les formations données aux FAMA ne sont pas adaptées.
Les formations données aux FAMA sont utiles, mais elles ne sont pas sélectionnées par les FAMA comme besoin. De même également, lorsqu'on demande des moyens logistiques, au lieu d'envoyer des moyens logistiques, on va plutôt envoyer des hommes supplémentaires. Donc, c'est là que effectivement, beaucoup de Sahéliens, mais non les populations lambda, des militaires de haut rang qui vous diront que, effectivement, Bourtinel, si la France continue à apporter ainsi son soutien au Sahel, difficilement elle pourrait arriver au bout de l'insécurité liée à cette horreur. Donc je pense que ce décalage entre les besoins exprimés et les demandes satisfaites par le président Macron fait que naturellement beaucoup de Maliens, beaucoup de Sahéliens ont du mal à comprendre ou à mesurer l'efficacité et la pertinence de cette France au Sahel.
Merci. Mais docteur Tunkara, c'est vrai que la ligne n'est pas très claire avec Bamako, on s'en excuse. Monsieur Dupuis, en quelques mots, hein, le retrait de ou bien la fin de l'opération Barkhane, on entend ici, a donc visiblement été décidé sans concertation. Quelles peuvent en être les conséquences? Et d'après vous, est-ce que les pays du Sahel étaient préparés ou sont préparés à prendre la relève et à mener seul cette bataille contre les groupes terroristes?
Alors, encore une fois, quitte à me répéter, je ne suis évidemment pas un représentant du Quai d'Orsay, c'est bien mal me connaître. Non, les États africains étaient informés, puisque je rappelle que le G5 Sahel a été créé pour qu'ils puissent s'emparer eux-mêmes en 2014, février 2014 déjà, de cette
Est-ce que
réalité.
Monsieur Dupuis, manifestement, ce n'est pas le cas des experts disent ici qu'ils n'ont pas été associés. Alors, comment vont-ils pouvoir se réorganiser, retrait est prévu d'ici quelques mois, mais pas tout de suite?
Oui, oui. Non, pas quelques mois, quelques années. Hein. On est en 2021, la fin de Barkhane, c'est 2023. Je le répète encore une fois, quitte à être insistant sur ce point. C'est pas quelques mois, c'est quelques années. Et puis, encore une fois, c'est pas la fin de la présence militaire française dans la région. Arrêtons de nous raconter des balivernes. Ce n'est pas vrai. On reviendra à des dispositifs antérieurs. Il y aura d'ailleurs sans doute une nouvelle mission qui va être créée. Takuba, pour l'instant, bat un peu de l'aile, et je suis le premier à avoir dit, écrit, que ce n'était pas forcément la meilleure configuration. 600 à 800 hommes, évidemment, en matière de force spéciale. Mais pour répondre à votre question, il me semble que quand le président burkinabé, Marc Kaboré, évoque le fait de renforcer aussi ses forces spéciales, évidemment dans le contexte de la terrible attaque de Sorlan et des 160 morts, quand ce même président burkinabé se plaint de l'insuffisante interopérabilité sahélienne. Je précise mon propos. Le principe du G5 Sahel et de Barkhane, ce n'est pas d'avoir des militaires français qui travaillent avec chaque pays, c'est d'avoir des pays entre eux qui coopèrent. Où sont les forces maliennes quand il s'agit de lutter de manière concertée sur des opérations qui traversent la frontière, notamment dans la région des trois frontières? Hormis le Tchad, qui a envoyé 1200 soldats dans la région du Massina, où sont les coopérations horizontales, donc entre ces pays?
Donc il y a désormais nécessité pour ces pays de travailler et de rendre cette mutualisation des efforts plus qu'une réalité. C'est une exigence désormais.
Désormais, non, c'est une exigence depuis 2014.
Je veux dire, elle est plus qu'une exigence aujourd'hui, avec la fin annoncée de Barkhane.
C'est une exigence depuis 2014.
D'accord. Merci, Monsieur Dupuis. On se retrouve pour la suite et fin de notre débat sur le retrait annoncé de l'opération Barkhane dans le Sahel.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Dans les pays du G5 Sahel vont-ils pouvoir se réorganiser pour faire face aux groupes djihadistes? Nous allons en parler dans cette dernière partie du grand rendez-vous consacré ce soir au retrait annoncé par Emmanuel Macron de l'opération Barkhane avec nos trois invités. Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre malien de la Justice, Dr Ali Tunkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, et Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE. Monsieur Tunkara, vous, comment est-ce que il va falloir faire pour que le départ ou la fin, même si Monsieur Dupuis insiste que c'est en 2023, de Barkhane n'est pas une conséquence négative dans la stratégie de lutte contre ces groupes djihadistes?
Alors, non, clairement, il faut rappeler que la force Barkhane, elle remplit une fonction vitale. Personne ne peut les nier, sauf ceux-là qui ne sont pas sur les différentes opérations. Mais en dépit de ce rôle que joue la force Barkhane, si vous regardez un peu l'attitude qu'elle a toujours fait preuve vis-à-vis des armées sahéliennes en termes de coopération effective, en termes de patrouille réellement conjointe. Et quand vous regardez également les différentes victoires qui sont remportées par la force Barkhane, ce sont quand même des victoires qui sont en grande partie remportées de façon isolée, et celles-ci n'ont pas associé les armées sahéliennes. Mais rappelons quand même aussi que c'est vrai que le G5 Sahel, c'est aussi toute l'œuvre. Mais si vous regardez aujourd'hui le G5 Sahel, les différents fonds qui sont alloués à cet organe sous-régional sont quand même des fonds qui sont détenus par les sociétés de prestation françaises, lesquels font malheureusement, même les chefs d'État du G5 Sahel ne savent pas à combien aujourd'hui le secrétaire exécutif du G5 Sahel a dans ses caisses. Donc comment voulez-vous qu'une instance régionale est dédiée à cette lutte contre le groupe radical violent.
C'est vrai que quand je parlais du G5 Sahel, c'était en termes des pays membres du Sahel là, qui sont concernés par ces attaques et non la force du G5 Sahel elle-même. Et en deux mots vraiment, Monsieur Tunkara, et alors que la ligne elle-même n'est pas très claire avec Bamako, qu'est-ce qu'il va falloir faire aujourd'hui pour quand ces pays ressentent le moins possible les conséquences de la décision française?
Déjà, je pense qu'il faut que ces pays eux-mêmes d'abord arrivent à s'organiser entre eux et d'accepter surtout de sortir des clichés, des préjugés. Ça, c'est pas la faute de la France non plus. Et quand vous regardez entre ces différents États, les Maliens auraient de forts doutes sur la Mauritanie, de même que les Mauritaniens auraient des doutes sur la sincérité du Niger ou du Burkina. Donc, lorsqu'on est dans une lutte censée être commune et que les différents acteurs censés remporter cette lutte, sont dans des clichés, sont dans des préjugés, difficilement la force conjointe du G5 Sahel pourrait arriver au bout de cette
insécurité. Merci, docteur Tunkara. Nous excusons encore, hein, la ligne vraiment est très mauvaise avec Bamako. Maître Konaté, vous avez 1 minute 30 pour nous dire quelle est l'option selon vous la plus intéressante. D'autres estiment qu'il va falloir peut-être envisager la diversification de partenaires, l'Algérie ou peut-être même la Russie qui pourrait être appelée à jouer des rôles beaucoup plus importants dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel.
Oui, vous ne pouvez pas sortir d'une situation et aller vous mettre dans une situation identique avec le risque éventuellement que vous vous exposez. Je pense que les États du Sahel aujourd'hui, les 5 du G5 d'une part, mais d'autres également, et quand je parle des États du Sahel, c'est de le voir dans la dimension la plus large, doivent prendre conscience aujourd'hui que leur destin est commun, que l'ennemi est commun et que aujourd'hui...
C'est ce que soulignait le président burkinabé, qui semblait dire qu'il n'y a pas cette implication des autres...
Mais
Il faut, aujourd'hui, c'est indispensable.
Il faut qu'il y ait cette implication d'une part, il faut que cette implication aille au-delà des chefs d'État pour que les sociétés africaines du Sahel aujourd'hui prennent conscience de cela et imposent ça aux dirigeants, d'une part. Et d'autre part, il n'y a pas de grand intérêt aujourd'hui à avoir des moyens dissimulés, des moyens disloqués. Il faut mettre des moyens en commun. Je le rappelle d'ailleurs au passage que le G5 a été mis en place justement pour coordonner les états-majors à ce niveau-là. Et le troisième élément, maintenant qu'on a fait le constat que la France est partie et bien partie, chez nous en Afrique, on dit, à défaut de sa mère, on tête sa grand-mère.
Autrement dit?
Sans la France, il faut faire avec soi-même. Et justement, c'est ce rappel de prise de conscience absolue qui doit gagner les Africains du Sahel, mais au-delà, les Africains de manière générale.
Êtes-vous favorable à l'entrée en scène des nouveaux partenaires, comme je le disais?
C'est de la rigolade. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de partenaires. On a besoin des gens aujourd'hui qui peuvent être dans un contexte identique et qui peuvent se battre avec nous ou à nos côtés. Par exemple, je pense à l'Algérie qui, du point de vue géographique, est directement impliquée, connaît bien la situation. Alors, le sujet, ce n'est pas de sortir de la France pour aller vers la Russie. Le sujet aujourd'hui, c'est de se battre d'abord africainement d'une part et faire avec tout ce que l'on peut mobiliser sur le territoire africain avec les forces africaines, y compris au titre de la coopération avec l'Algérie.
Merci, M. Konaté. Monsieur Dupuis, comment voyez-vous la solution aujourd'hui? Barkhane va bientôt s'en aller, même si on parle de redynamisation et de redéploiement. En attendant, qu'est-ce qu'il va falloir faire au niveau des pays du Sahel?
Tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire une meilleure coordination entre eux, hein, et pas seulement par le truchement de la France ou par le truchement d'un autre acteur qui peut remplacer la France. Il est temps d'une africanisation, une prise en compte de la nécessité de travailler de concert, pas seulement d'ailleurs qu'avec les cinq membres du G5 Sahel, je suis d'accord avec l'idée qu'il faut aussi tenir compte des pays périphériques. Après tout, le Sénégal a le deuxième contingent de la MINUSMA avec près de 1300 hommes, un pays qui n'appartient pas à la CEDEAO comme le Tchad, même s'il appartient au G5 Sahel, est aussi parti actif. Et puis n'oublions pas qu'au G5 Sahel, il y a la complémentarité de la force mixte multinationale qui associe le Bénin, le Cameroun et le Nigeria, en plus des cinq pays du G5 Sahel. Et puis bien évidemment, il faut sans doute qu'il y ait une meilleure intensification de la réponse ouest-africaine.
Et si la Russie proposait par exemple son aide, ou bien les États-Unis voudraient jouer un rôle plus accentué, comme l'a fait la France hier?
D'une phrase, la Russie n'enverra pas de corps expéditionnaire là-dessus, il faut être réaliste. Néanmoins, la Russie a, comme les États-Unis, comme l'Allemagne, comme l'Italie, un certain nombre de partenariats bilatéraux qui peuvent être renforcés. Je suis assez d'accord avec cette idée. Il est tout à fait logique et possible que l'Algérie, qui a dit son envie d'envoyer des troupes dans le cadre de la MINUSMA. Elle a même fait réformer sa constitution en novembre dernier, l'article 91 de sa constitution, qui permet désormais aux forces armées algériennes de participer à des opérations extérieures, ce que la constitution ne lui permettait pas de faire. L'Algérie n'enverra pas de troupes au Mali de manière unilatérale, mais elle enverra sans doute un contingent au sein de la MINUSMA. Ça, c'est le premier point. Et puis, il faut avoir à l'esprit qu'avant, la force Barkhane, enfin avant la force Serval, avant la force et ensuite à la force Barkhane, il y avait une coordination régionale. Ça a été créé en 2009, ça s'appelait le CEMOC, donc coordination des états-majors associant le Mali,
donc il faut l'activer.
L'Algérie et la Mauritanie, il faut bien sûr le relancer. C'est la raison pour laquelle le président Tebboune l'a proposé à la veille du sommet de N'Djamena.
Merci beaucoup Emmanuel Dupuis pour vos analyses à tous les trois, évidemment. Président de l'Institut de prospective et sécurité en Europe, IPSE. Merci à Dr Ali Tunkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel et auteur de l'ouvrage Mali, analyse socio-historique des conflits nord et centre. Et merci à vous Mamadou Ismaïla Konaté, avocat et ancien ministre malien de la justice. Bonsoir.